Bien. Alors nous allons poursuivre cette matinée. Nous devions écouter Éric Gaffé, mais comme on l'a signalé tout à l'heure, il est resté en rade à Montparnasse hier soir, donc il est reparti vers Montbéliard, Belfort-Montbéliard. Donc Julie Sénatiempo a accepté de faire son exposé ce matin alors qu'il était prévu cet après-midi. Et c'est d'autant moins facile pour elle qu'elle devait être avec Marion Fauré, et que Marion Fauré vient d'être hospitalisée. Donc voilà, elle va être obligée d'assurer le spectacle toute seule. Mais bon, je pense que ça ne va pas poser de problème. Alors, Julie Sénatiempo est ingénieure en génie physiologique et informatique de l'Université de Poitiers. Elle est conseil en propriété industrielle et en brevet. Elle est mandataire européen auprès de l'Office européen des brevets. Elle est diplômée du CEPI marque dessin modèle qui est à Strasbourg, c'est ça. Et elle a intégré Akinov il y a 6 ans. Donc nous allons l'écouter, nous parler d'un problème qui est fort intéressant et qui m'a bien passionné il y a quelques années, qui est celui de la propriété intellectuelle.
Bonjour à tous. Donc, comme on a pu le voir, les nanotechnologies est un domaine très récent et en très forte évolution. Pour preuve, le nombre de brevets qui a triplé, enfin plus que triplé, depuis 1990. Donc, c'est sur les nanotechnologies, donc c'est un bon indicateur de l'évolution de cette technologie. Les nanotechnologies posent un gros problème au niveau des brevets, notamment dû à l'interdisciplinarité dont on n'arrête pas de parler depuis ce matin, puisqu'elle touche toutes les disciplines. Et donc ça pose des problèmes pour les offices de brevets, mais également pour les représentants, pour les déposants et pour les inventeurs. Donc on va voir ça un petit peu au fur et à mesure de la présentation. Donc juste avant de commencer, je souhaitais vous rappeler un petit peu le contexte. Donc la propriété intellectuelle, c'est tout ce qui touche au monopole d'exploitation sur les créations intellectuelles. Donc ça englobe plusieurs choses. Tout d'abord, la propriété littéraire et artistique, c'est-à-dire les droits d'auteur, mais également la propriété industrielle qui concerne les marques, les dessins et modèles et les brevets. Aujourd'hui, je vais exclusivement vous parler de brevets, parce que ce sont eux qui permettent essentiellement de protéger les nanotechnologies. Donc le programme, on va commencer avec une introduction pour vous rappeler d'une façon générale qu'est-ce qu'un brevet. Puis on parlera des brevets nanotechnologies, alors la brevetabilité des inventions nanotechnologiques et les problématiques liées spécifiquement liées aux nanotechnologies. Et enfin, je vous parlerai d'exemples d'applications de nanotechnologies brevetées, où c'est là... Je vais avoir un peu plus de mal parce que ce n'était pas moi qui devais faire cette présentation-là, mais je vais essayer quand même de vous commenter brièvement les diapositives. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un brevet juridiquement ? C'est un titre de propriété sur une invention technique. Donc, je précise bien technique. Et ce titre de propriété, il est délivré par une administration spécialisée. En France, c'est l'INPI. En Europe, c'est l'Office européen des brevets. Aux États-Unis, il y a également un office dans chacun des pays. Ce titre de propriété, il confère à son titulaire un droit d'exploitation qui est exclusif. Donc c'est un droit qui est fort. Et ce droit, il est octroyé en contrepartie de la divulgation de l'invention. Donc vous divulguez votre invention, en contrepartie, vous avez un droit exclusif d'exploitation. Mais attention, ce droit d'exploitation, il est territorial, c'est-à-dire que si vous déposez une demande de brevet en France, vous n'aurez un droit d'exploitation qu'en France. Et il est temporaire. Vous ne pouvez pas l'avoir pour toute votre vie. Maintenant, qu'est-ce qu'un brevet pour le titulaire, du point de vue du titulaire, donc du point de vue des industriels ou des structures publiques qui déposent des brevets sur des inventions, notamment sur les nanotechnologies? Eh bien, c'est donc un droit de propriété qui lui confère un monopole d'exploitation sur son invention. Un monopole d'exploitation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut interdire tout tiers d'utiliser son invention. Et il peut notamment lui interdire de la fabriquer, de la commercialiser, de l'utiliser, mais également de l'importer. Pour le titulaire, c'est également un moyen efficace de dissuasion. Le fait d'avoir un brevet, ça fait un petit peu peur à la concurrence, aux autres, donc ça les dissuade d'utiliser. C'est aussi un avantage compétitif stratégique, parce qu'aujourd'hui, avec toute la concurrence et la mondialisation, il est pratiquement impossible de commercialiser des produits sans avoir déposé une demande de brevet. C'est un moyen de valoriser et de rentabiliser les efforts de recherche qui sont effectués par les chercheurs, par les sociétés. C'est un bon indicateur de performance. On regarde généralement le nombre de brevets déposés, toujours aussi bien dans les structures privées que dans les structures publiques. C'est également un médium technologique, c'est un moyen de diffusion de l'information technique. C'est d'ailleurs la plus grande source d'information technique au monde. C'est bien plus que ce qu'il y a dans les publications. Et c'est également un élément de l'actif immatériel qui peut être valorisé et transmis. Donc ça, c'est plus pour les entreprises. Voilà. Donc comment on acquiert un droit de propriété industrielle, donc un brevet ? La propriété du brevet, elle s'acquiert par le dépôt d'une demande de brevet. L'usage n'apporte rien, bien au contraire, parce que si on utilise avant de déposer, on ne peut plus déposer, on est forclos. Le droit appartient au premier déposant, c'est-à-dire celui qui va déposer le premier. Donc c'est un peu la course au dépôt, sauf aux États-Unis où là, bien sûr, ils font pas comme tout le monde, donc c'est le droit au premier inventeur. Donc c'est le premier qui invente qui a droit au brevet et il a un délai d'un an à partir du moment où il a divulgué pour aller déposer sa demande de brevet. La validité du brevet, on a vu tout à l'heure, je vous ai dit que c'était temporaire, c'est un maximum de 20 ans, sauf pour les brevets de médicaments. Parce que vous savez, quand on développe un médicament, ça peut mettre une dizaine d'années. Donc ça ampute sur la durée d'exploitation et il a été mis en place un système particulier qui s'appelle le certificat complémentaire de protection qui permet de prolonger la durée de vie pour les brevets de médicaments pour une durée maximum de 5 ans. Donc le brevet valide 20 ans sous réserve du paiement de taxes de maintien en vigueur. Il faut donc payer tous les ans des taxes pour le maintenir, sinon il tombe dans le domaine public. On voit qu'une des raisons de la perte des droits, ça peut être la déchéance pour non-paiement des taxes. Une autre raison, c'est que le brevet, une fois délivré, peut être déclaré nul, mais uniquement par décision de justice. Donc, c'est-à-dire que les brevets délivrés aujourd'hui sont présumés valables, si vous recherchez des brevets. Le seul moyen de les faire tomber, c'est qu'ils soient déclarés nuls par un juge. Donc voilà sur les généralités sur les brevets. On va aborder brevet nanotechnologie, donc la brevetabilité des inventions nanotechnologiques, l'objet du brevet, les critères de brevetabilité et enfin les problématiques liées aux nanotechnologies. Donc l'objet du brevet, d'une manière générale, une invention se définit comme la solution technique apportée à un problème technique. Donc sur ce schéma, on voit qu'on a un problème, une solution, un résultat. L'invention se situe uniquement sur les moyens techniques de la solution. Un brevet, il ne peut pas avoir pour objet juste une idée, un but ou un résultat, mais bien uniquement sur la façon dont on a apporté la solution au problème. Donc, qu'est-ce qui peut faire l'objet d'un brevet ? Tout d'abord, ça peut être un procédé, c'est-à-dire une succession d'étapes. Par exemple, un procédé pour produire des nanoparticules, un procédé de détection de bioparticules, un procédé de vectorisation, etc. Ça peut également être un dispositif, un outil, une machine, un appareil. J'ai pris comme exemple le microscope à champ de force atomique. Ça peut être des puces à ADN, un dispositif d'analyse, un dispositif de diagnostic. Ensuite, on dit que ça peut être également un produit. On parle généralement de composition, de molécules, de kits. Donc, par exemple, ça peut être des nano-émulsions, des vecteurs moléculaires, une sonde moléculaire. Et enfin, l'objet du brevet peut porter aussi uniquement sur l'utilisation, c'est-à-dire la mise en œuvre du produit, par exemple l'utilisation de nanoparticules de métal pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Donc ça, ce sont des exemples que j'ai pris de titres de brevets qui existent. Donc les inventions nanotechnologiques sont-elles brevetables ? Vous en doutez, oui, mais pour autant, bien sûr, qu'elles remplissent les conditions de brevetabilité. Donc, l'Office européen des brevets a émis une définition pour identifier les brevets en nanotechnologie. Donc, c'est celle-là. Le terme nanotechnologie couvre toute entité dont au moins un composé fonctionnel présente une taille géométrique inférieure à 100 nanomètres en une ou plusieurs dimensions et susceptible de provoquer des effets physiques, chimiques ou biologiques intrinsèques à ce format. Donc, voilà, c'est relativement vague. Les brevets, d'une manière générale, en fait, sont classés par catégorie technique. Donc, il y a une classification qui existe, A, B, C, D, chimie, mécanique, etc. Et en fait, depuis peu, il a été créé une classification particulière pour tout ce qui est nanotechnologie. C'est la classification Y01N. Parce qu'il était impossible, en fait, de faire une catégorie à part. Donc, les brevets sont classifiés dans A, B, C, D, puis après, éventuellement, Y01N en plus. Pour avoir quelques idées de chiffres sur les brevets, sur les nanos, plus de 100 000 demandes de brevets dans le monde aujourd'hui, entre 14 000 et 15 000 demandes de brevets européens et environ 40 000 demandes de brevets aux États-Unis. En France, je crois que j'avais regardé, c'était 1600, je crois, quelque chose comme ça. Donc, l'objet du brevet, on a vu qu'on parlait d'invention. L'invention n'est pas définie en tant que telle. Par contre, il y a beaucoup d'inventions qui sont exclues de la brevetabilité. Donc, les découvertes, par exemple la radioactivité, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les simples présentations d'informations, les plans, principes, méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur. Tout ça, c'est exclu en tant que tel de la brevetabilité. De plus, l'invention ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Donc là, c'est relativement subjectif puisque les bonnes mœurs et l'ordre public dépendent un peu du pays dans lequel vous vous situez. Donc on place la barre où on peut. Ensuite, ce qui nous intéresse un petit peu plus aujourd'hui, donc ce qui est exclu également, ce sont les méthodes de traitement médical. On comprend pourquoi, parce qu'il est un peu difficile d'empêcher un médecin d'exercer. C'est tout simplement pour ça. Donc, ne sont pas brevetables les méthodes de traitement thérapeutique, les méthodes de traitement chirurgical du corps humain ou animal. Et ne sont pas brevetables non plus les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Mais par contre, les produits pour la mise en œuvre de ces méthodes, elles, eux, sont brevetables. Et de même, il existe une possibilité de protéger ces produits pour une application thérapeutique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un produit qui est connu aujourd'hui pour une application donnée. On découvre une nouvelle application. On ne peut pas protéger la méthode de traitement thérapeutique, mais on peut protéger ce produit pour son utilisation pour le traitement de la nouvelle maladie. Donc on empêche la protection porte vraiment que sur le produit, pas sur la méthode, mais c'est quand même un petit peu un moyen détourné de viser ce type d'invention. Il y a aussi beaucoup d'exclusions pour les sciences du vivant. Alors je vous en parle aujourd'hui parce que les sciences du vivant, les biotechnologies, c'est aussi un domaine récent. Et en fait, toutes ces exclusions, elles sont apparues il n'y a pas très longtemps avec les lois de bioéthique, etc. Et je ne sais pas si ça ne va pas être le cas bientôt pour des inventions de nanotechnologie particulières, puisqu'on a les débats qu'on connaît et qui ont été amorcés tout à l'heure. Donc juste rapidement, sont exclus de la brevetabilité, bien entendu, le corps humain aux différents stades de sa constitution, ainsi que la simple découverte d'un de ces éléments, y compris la séquence partielle d'un gène. Sont exclus aussi les procédés de clonage, les procédés de modification d'identité génétique, les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales. Sont exclus les séquences totales ou partielles d'un gène prises en tant que telles, variété végétale, race animale, procédés essentiellement biologiques, c'est-à-dire les croisements, les sélections, etc. Et les procédés de modification d'identité génétique des animaux, mais uniquement ceux qui sont de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale. Par contre, peuvent constituer une invention brevetable les éléments isolés du corps humain. Tout à l'heure, on a vu que ce n'était pas possible, mais c'est possible s'ils sont produits par un procédé technique précis ou isolés par un procédé technique précis et si on donne leur application industrielle. Les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés sont brevetables et les matières biologiques isolées de leur environnement naturel aussi, si on a un procédé technique pour les isoler ou pour les produire. Donc quelques exemples dans les sciences du vivant. Donc ça peut être l'utilisation de molécules d'ADN ou ARN isolées, un vecteur recombinant contenant une molécule d'ADN, l'utilisation de molécules pour moduler l'expression d'enzymes ou d'hormones, etc., des plasmides et des vecteurs, ou encore un anticorps couplé à un agent immunogène. Donc on en arrive aux critères de brevetabilité. Donc on a défini un petit peu ce qui n'était pas une invention, donc ce qui était une invention. Maintenant on arrive aux critères de brevetabilité. Donc il y en a trois, c'est la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle. Donc je commence par l'application industrielle. L'invention doit trouver une application industrielle. Pour les nanotechnologies, on en trouve très facilement, donc il n'y a pas vraiment de problème. Ça se situe dans plusieurs domaines, comme on l'a vu depuis le début. Donc ce critère-là, on n'a pas vraiment de mal à le remplir. La nouveauté. La nouveauté, on dit qu'une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, dans l'art antérieur. Et l'état de la technique, c'est tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande par n'importe quel moyen, une description écrite, orale, un usage ou tout autre moyen. Donc n'importe quelle divulgation avant la date de dépôt vous empêche de déposer parce que votre invention ne sera plus nouvelle. On entend par public tous les tiers non soumis au secret parce que parfois on peut divulguer l'invention sous secret, sous confidentialité. Dans ce cas-là, ça ne constitue pas une divulgation opposable. La nouveauté, elle a un caractère absolu, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune limite dans le temps. Ça peut être des publications d'il y a 300 ans. Il n'y a aucune limite dans le lieu. Ça peut être une publication dans un journal au fin fond d'une campagne japonaise. Il n'y a pas de problème, c'est aussi opposable à votre invention. Quelle que soit la forme de la divulgation, on l'a vu, et quel que soit l'auteur de la divulgation, c'est-à-dire que vous-même, vous pouvez vous antérioriser en divulguant votre invention, et ça arrive très souvent. Sauf, bien sûr, j'en reviens tout à l'heure aux États-Unis, puisqu'on a une période de grâce d'un an pour déposer la demande. Donc, les particularités liées aux nanotechnologies pour la nouveauté. Est-ce qu'un dispositif, du fait qu'il soit plus petit, peut être nouveau en soi ? En fait, une version plus petite d'un dispositif connu est considérée comme nouvelle si elle présente un effet différent et ou alors le même effet mais plus fort, plus large ou amélioré, de façon à ce que la taille soit considérée en fait comme une sélection. On considère que c'est une invention de sélection et dans ce cas, même si ça préexistait déjà à une échelle supérieure, le fait que le dispositif soit plus petit le rend nouveau. Donc j'ai pris un exemple. On a une particule A qui a un diamètre compris entre 20 et 30 nanomètres. Que penser si une particule qui est faite en un même matériau est déjà connue avec un diamètre de moins de 1 micromètre ? À première vue, on pourrait se dire que la particule A n'est pas nouvelle parce que la fourchette de valeur qui est revendiquée entre 20 et 30 nanomètres, elle est déjà incluse dans la fourchette de valeur de la particule B. Toutefois, en fait, on considère que A peut être considérée comme nouvelle. Et pour ça, il faut que cette petite fourchette de valeur entre 20 et 30 nanomètres remplisse plusieurs conditions. Il faut qu'elle soit suffisamment étroite par rapport à celle de B, donc là, c'est le cas. Il faut qu'elle soit suffisamment éloignée des extrémités de la fourchette de B. Donc là aussi, on peut considérer que c'est le cas. Mais surtout, il faut que le choix de la petite taille ne soit pas arbitraire, mais lié à un effet particulier. Donc si là, le choix de la taille de la particule est bien lié à un effet particulier, on pourra considérer qu'elle est nouvelle par rapport à celle qui existait déjà. Le dernier critère, c'est l'activité inventive. Donc comme la nouveauté, c'est un critère qui est assez facile à déterminer. Est-ce que ça existait ou est-ce que ça n'existait pas en tant que tel ? L'activité inventive, c'est un critère qui est beaucoup plus subjectif et qui doit être considéré par rapport à l'homme du métier. On dit qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si à partir des connaissances de l'art antérieur relatif à l'invention, il n'était pas évident pour l'homme du métier de combiner ces connaissances pour arriver à l'invention. Je vous avais rien compris, mais c'est normal. En fait, vous avez des documents antérieurs, les connaissances générales de l'homme du métier, et la question qu'il faut se poser, c'est si en combinant ces éléments, l'homme du métier pouvait arriver à l'invention sans exercer d'efforts intellectuels particuliers. Donc c'est la question qu'on se pose à chaque fois, et donc il faut argumenter dans un sens ou dans un autre en fonction de la position dans laquelle on se trouve. L'activité inventive, donc là aussi il y a des particularités qui sont liées aux nanotechnologies. Donc la miniaturation d'un dispositif, peut-elle impliquer une activité inventive ? Donc là encore, une version plus petite d'un dispositif implique une activité inventive si la réduction des dimensions montre un effet additionnel ou surprenant et si le choix des dimensions n'est pas arbitraire. Donc on en revient un petit peu aux mêmes critères que tout à l'heure. Donc j'avais pris un exemple qui était présenté par l'Office européen des brevets. C'était sur un transistor à effet de champ. Et il était caractérisé en fait par une couche isolante d'une épaisseur de 3 à 18 nanomètres. Et en fait, au moment où ils ont étudié l'activité inventive, l'Office européen des brevets a décidé que la fourchette de valeur choisie pour l'épaisseur du film diélectrique n'avait fait que suivre une tendance vers la miniaturisation des dispositifs semi-conducteurs. Et face à ça, la requérante n'a pas réussi à démontrer un effet particulier produit par le film de cette épaisseur spécifique, si bien qu'il a été considéré qu'il n'y avait pas d'activité inventive et que ce choix de dimension était complètement arbitraire. Donc là, il n'y avait pas d'activité inventive pour celui-là. La dernière chose dont je voulais vous parler pour les critères de brevetabilité, qui n'est pas explicitement cité en tant que tel dans le code, mais qui est nécessaire, c'est ce qu'on appelle la suffisance de description. En effet, l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Il ne suffit pas juste d'écrire 3-4 lignes sur ce qu'on pense être une invention pour pouvoir obtenir un brevet. Donc il y a une très grande exigence pour la suffisance de description dans le domaine de la chimie et des sciences du vivant. En particulier, à chaque fois que vous citez des séquences de nucléotides, vous devez faire un listing à la fin d'une façon très précise et très réglementée. Et pour le domaine des nanotechnologies, il y a aussi une très grande exigence, puisque ce sont des produits qui sont sophistiqués, ce sont des méthodes qui ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre et des pratiques qui ne sont pas toujours connues par tout le monde. Et il n'y a pas beaucoup de connaissances aujourd'hui, il y en a, mais moins que dans d'autres domaines. Donc il y a une grande exigence de la part des offices. J'ai pris aussi un exemple d'une fresque qui n'était pas suffisante, qui avait été considérée comme pas suffisamment décrite par l'Office européen des brevets, qui disait « il n'est pas suffisant de dire, entre guillemets, des nanoélectrodes avec un diamètre de 5 nanomètres sont déposées sur un substrat ». Parce que ça ne se fait pas avec des méthodes courantes et usuelles, donc il faut en dire un petit peu plus sur la façon dont on fait ce dépôt sur le substrat. Ensuite, on a vu donc que les nanotechnologies étaient brevetables, mais il y a quand même des problématiques qui sont liées à leur particularité. Notamment, la première problématique qui a été constatée, c'est qu'on peut arriver à l'octroi de brevets qui soient trop larges, parce que quand on a des domaines nouveaux, en fait, comme ça, on n'a pas beaucoup d'état de la technique dans les bases de données des offices. Et donc, s'ils ne détectent pas de l'art antérieur, ils vont plus facilement vous délivrer des brevets. Et ça risque de bloquer des pans entiers de la technique. Et puis, pareil, si les bases de données ne sont pas bien alimentées, il peut y avoir des empiétements en termes de protection des brevets les uns sur les autres. Donc ça a été les premières problématiques qui sont sorties. Ensuite, deux questions en fait, auxquelles il n'est pas possible de répondre pour l'instant. C'est la reproduction d'une structure qui existe déjà en fait, à l'échelle du nanomonde, donc... On peut imaginer que c'est dans une structure vivante et qu'on essaye de la reproduire. Remplit-elle les conditions de nouveauté et d'activité inventive, juste parce qu'on la reproduit ? Et de plus, si un brevet en vigueur existe déjà sur le même dispositif, mais sans précision de taille, c'est-à-dire que tout à l'heure, on a vu le très grand ou alors celui qui avait déjà une échelle déterminée et il y avait nouveauté si on déterminait une échelle plus petite, mais s'il n'y avait pas de précision de taille, le dispositif à l'échelle nanotechnologique, il est nouveau, on l'a vu, mais est-ce qu'il tombe sous la dépendance du brevet antérieur qui revendique le plus large ? Et si c'est le cas, on va se retrouver dans le cas de multidépendance et de contrefaçon multipliée. Et donc, est-ce qu'il peut librement l'exploiter ? Donc ça, c'est des questions, je n'ai pas les réponses et personne ne les a aujourd'hui. Donc, j'espère qu'on va les avoir bientôt. Donc, j'en arrive aux exemples d'applications de nanotechnologie brevetées. Donc, on avait voulu là vous montrer les applications des brevets en fait, sur les nanotechnologies. Je suis désolée, je vais être relativement succincte, notamment en termes de sur la technique, je ne vais pas être brillante, je pense, parce que je ne connais pas très bien les exemples que Marion Fauré voulait vous présenter. Et surtout, Marion Fauré est physicienne, donc elle avait pris des exemples assez orientés physique. Je ne suis pas du tout physicienne, donc ça va être un peu difficile pour vous présenter ça. Donc le premier exemple dont on voulait vous parler, c'était le microscope à effet tunnel. Donc le microscope en lui-même, bien sûr, ce n'est pas un objet qui fait partie des nanotechnologies, mais il est classé en tant que tel parce qu'il permet l'observation et la manipulation d'objets nanométriques. Donc je ne vais pas vous expliquer son fonctionnement parce que je vais vous dire n'importe quoi, mais vous voyez sur la droite, alors je crois que c'était, là, j'arrive même pas à lire, à l'exemple qui était donné, c'était des atomes d'or en fait, qui est sur une surface de silicium observée au microscope à effet tunnel. Voilà, de l'or toujours. Donc, ce microscope, il a été mis au point par M. Ginnig et Rohrer en 1981 chez IBM. Ces deux personnes ont eu un prix Nobel de physique en 1986. Et bien sûr, ils ont déposé des demandes de brevets. Donc, on voit là trois demandes de brevets qui font partie de leur panel. Donc, une demande suisse, enfin un brevet suisse, ici, qui devait être le premier, parce que je crois que la date est relativement, voilà, 79. On a ici un brevet européen et le brevet américain, donc qui a été publié antérieurement, mais qui est dans le même lot. Ensuite, on peut voir que la technologie du microscope à effet tunnel a permis de déposer d'autres brevets d'invention, donc par d'autres personnes, mais qui ont utilisé cette technologie pour mettre au point d'autres inventions. Ici, c'est un procédé de fabrication pour repositionner des atomes en fait, sur une surface à partir de microscopes à effet tunnel. Donc, c'est toujours chez IBM, hein. Donc un deuxième exemple d'application de nanotechnologie brevetée, c'est la magnétorésistance géante, GMR. Donc le principe, la magnétorésistance géante est un effet quantique observé dans les structures de films minces composées d'une alternance de couches ferromagnétiques et de couches non magnétiques. Elle se manifeste sous forme d'une évolution significative de la résistance observée sous l'application d'un champ magnétique. Donc là, vous avez des schémas explicatifs dessous. Les applications, pour que ce soit plus concret, donc c'est un capteur de champ magnétique et c'est très utilisé dans l'industrie automobile, dans la défense et également en médecine. Ça a été utilisé aussi pour le stockage de données sur tête de disque dur et le développement de la spintronique. Donc les deux personnes qui sont à l'origine de ce développement, c'est M. Fert et M. Grünberg. Ils ont tous les deux eu un prix Nobel en 2007 pour leurs travaux de 1988. Et bien sûr, ils avaient déposé aussi des demandes de brevets. Ensuite, pareil, il y a eu d'autres demandes de brevets qui ont été déposées en suivant. En 1989, donc M. Grünberg a déposé un brevet pour le centre de recherche Jülich, un brevet européen, un brevet japonais et un brevet américain. Aujourd'hui, il y a, pour vous montrer un peu l'implication, aujourd'hui, il y a 700 millions de têtes de lecture issues de cette technologie qui sont commercialisées chaque année. L'évaluation des redevances au centre Jülich en 2007, c'est 10 millions d'euros pour le brevet. Et en plus, ça a permis la création, a priori, d'une unité mixte Thales-CNRS en 1995. Un troisième exemple, les nanotubes de carbone, dont on a déjà beaucoup parlé. Donc c'est pareil, les nanotubes de carbone, un prix Nobel en 1996 pour le carbone 60. Il y a des applications nombreuses et variées, des matériaux de performance, des nanoélectrodes, des nanofils électriques. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de brevets, vraiment énormément. On en a pris trois, pour exemple. Une demande de brevet sur une antenne optique, un filament de lampe, un écran souple, etc. Enfin, rapidement, quelques exemples d'applications de nanobiotechnologie brevetée dans le domaine des biotech plus, donc les biopuces que tout le monde connaît, donc les puces qui sont constituées de milliers de spots de molécules biologiques, ADN, protéines, pour la détection multiple de pathologies. Donc là, on a mis un exemple de brevet, donc de demande de brevet international du CEA. Tout à l'heure, on a parlé du diagnostic in vivo par imagerie cellulaire. Donc je ne vais pas en reparler, mais avec les quantum dots qui utilisent les propriétés optiques de nanocristaux et aussi la spectroscopie moléculaire. Les vecteurs de molécules d'intérêt thérapeutique qui permettent de transporter les molécules biologiquement actives jusqu'à leur cible biologique, donc ça on en a parlé aussi. Et en cosmétique, bien entendu, l'utilisation de nano-émulsions en cosmétique avec un exemple de brevet français, cette fois de L'Oréal, récent, sur des nano-émulsions cosmétiques qui comprennent un composé d'urée hydroxyle. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça a été. Pour vous dire que les brevets, c'est très important dans tous les domaines techniques, qu'on ne peut pas s'en passer dans les nanotechnologies, mais je pense que d'ici peu de temps, il va y avoir quand même des règles plus spécifiques sur ce domaine-là. Mais il va falloir attendre que tous les débats qui existent actuellement soient terminés et qu'il y ait des choses qui ressortent de ces débats-là. Donc je pense qu'il va falloir attendre encore quelques années.
Merci. Il y a des jours où même un chimiste peut comprendre des termes juridiques. Mais ça, on le doit à la clarté d'exposé de Julie Sénatiempo qui a bien exposé tous ces problèmes qui sont finalement très compliqués. Je suppose qu'il y a des questions dans la salle.
Il y a quand même des spécificités qui sont subtiles, puisque l'activité inventive, c'est une notion assez floue. Alors comment vous réglez quand même les problèmes, parce qu'à un moment donné, il faut quand même trancher, si j'ose dire, étant donné que ça ne doit pas tomber sous le sens d'un homme de l'art, des connaissances antérieures. C'est quand même...
En fait, il ne faut pas faire...
Il n'y a pas de sous-table quand même chez les...
Non. Non, en fait, il y a des techniques pour expliquer l'activité inventive ou la non-activité inventive. On a une obligation de respecter un certain schéma. En fait, bon, pour rentrer un petit peu dans la technique, il faut d'abord déterminer l'art antérieur le plus proche, donc un seul document qu'on considère comme être le plus proche de l'invention. À partir de cet art antérieur le plus proche, on détermine les différences, donc une ou plusieurs différences entre l'invention et cet art antérieur le plus proche. Puis, on détermine les effets qui sont liés à ces différences. D'accord ? Et ensuite, on regarde si avec les autres documents qui sont plus ou moins proches, qui existent, on peut arriver à retrouver cette invention du fait que ces documents montrent les mêmes effets, en fait. Et des fois, c'est le cas, et des fois, c'est pas le cas. Donc, on arrive quand même assez bien maintenant à déterminer s'il y a activité inventive ou pas. Mais ça, c'est vrai, disons, en Europe, en France, en Europe, ça l'est moins aux États-Unis, parce qu'ils n'ont pas cette même rigueur. Et c'est effectivement beaucoup plus aléatoire aux États-Unis que chez nous. Donc, voilà. Mais c'est de la pratique, c'est de la pratique.
Complément d'explication, est-ce que ça veut dire qu'aux États-Unis on dépose des brevets comme ça et puis on voit ce que ça donne, quoi, mais ils ne sont pas forcément très sérieux.
En fait, je pense que ça a été vrai pendant un certain temps. C'est pas qu'ils ne sont pas forcément très sérieux, mais ils ont des critères qui sont différents des nôtres. Aujourd'hui, c'est plus vrai parce qu'ils ont beaucoup durci leurs critères. Et au contraire, ce que je viens de vous dire sur l'activité inventive, c'est que finalement, c'est même difficile de montrer qu'il y a activité inventive, notamment pour des Européens, parce qu'ils ont quelques... Voilà, quand on est Américain, c'est beaucoup plus facile que quand on est Européen, parce qu'ils délivrent beaucoup moins de brevets pour nous que pour eux. Donc, disons que maintenant, les brevets américains se rapprochent de plus en plus de la pratique européenne. Pas pour tout, mais pour certaines choses, notamment, je pense à tout ce qui concerne les gènes. En fait, en Europe, vous pouvez breveter une séquence génique ou un gène, mais il faut en identifier sa fonction, lui donner une application industrielle et décrire très précisément le procédé qui permet de l'isoler, etc. Aux États-Unis, même si vous n'aviez pas la fonction du gène, vous pouviez breveter la séquence génique. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Il y a de la jurisprudence qui a dit que c'était quand même pas possible, quoi. Donc, ils essayent quand même de s'améliorer un peu.
Oui, parce que ça veut dire qu'ils protègent très large, et puis à partir de ce moment-là, les autres ne peuvent plus rien faire.
Pour moi, une des questions importantes dans le domaine de la nanotechnologie, c'est le problème des continents et en particulier de l'Asie. C'est pas spécifique aux nanotechnologies, mais ça va l'être et ça l'est déjà. Donc comment est-ce qu'on fait pour défendre un brevet en Chine, par exemple, puisque le problème majeur est là?
Honnêtement, c'est très difficile. On sait tous que les Chinois sont un peu copieurs. Donc une fois qu'on a détecté la copie, si on a un brevet en Chine, déjà il faut encore qu'on ait un brevet en Chine. Si on a un brevet en Chine, il faut engager donc une action en contrefaçon en Chine. Autant dire que si on n'a personne sur place, c'est perdu d'avance. Déjà c'est perdu d'avance parce que déjà il faut détecter la contrefaçon. Une fois qu'on l'a détecté, il faut être vraiment sur place avec des agents, des avocats en Chine, etc. Donc c'est vraiment extrêmement difficile. La seule chose qui est bien dans le système des brevets, c'est que si vous n'avez un brevet qu'en France, parce que vous n'avez pas pu étendre en Chine justement, et qu'il y a des produits sur les nanotechnologies qui sont fabriqués en Chine et qui sont ensuite importés en France, vous pouvez interdire l'importation. Et ça arrive maintenant très souvent, et on arrive quand même à taper sur les doigts des importateurs. Quand je dis taper sur les doigts, c'est uniquement les arrêter, parce que bien sûr, on n'arrive jamais à les retrouver, à récupérer de l'argent, etc. C'est assez difficile.
Une petite information à propos d'un médicament anticancéreux qui a été inventé dans un laboratoire de Poitiers que je connais bien. On sait qu'il est fabriqué en Chine, on peut l'acheter sur Internet. Donc voilà, et c'est un dépôt, il y a eu un brevet mondial là-dessus, donc on n'a absolument rien pu faire. Et le pire, c'est qu'on ne comprend pas très bien comment ils l'ont fabriqué, donc on a quand même un petit peu des doutes sur la vraie nature de ce produit.
Mais si, en fait, s'il est vendu sur Internet, en fait, vous pouvez agir en France, par exemple, parce que la vente sur Internet, ça constitue une offre-vente en France, puisque si un Français peut l'acheter, donc on peut agir devant un tribunal français, ce qui est quand même plus facile. Même si c'est peut-être un coup d'épée dans l'eau, c'est quand même mieux que rien. Quoi. Voilà. Et l'offre en vente aussi. L'offre en vente sur le territoire français. Parce que l'offre en vente, c'est interdit.
Si le serveur est en Chine.
Oui, mais vous atteignez le public français. Internet, en fait, c'est assez particulier. Mais justement, si le public français peut y avoir accès et peut l'acheter, et peut se le faire livrer chez lui, vous pouvez interdire l'offre en vente au public français. Donc il faut que sur son site internet, il spécifie que les Français n'ont pas le droit d'acheter, que ce ne soit pas écrit, enfin voilà, etc. Oui, non mais bon, je sais bien que ce n'est pas...
J'aurais une petite question, bon, c'est peut-être pas dans le domaine des nanotechnologies, mais d'une façon générale, tout à l'heure vous avez dit un brevet, il est accordé, pour être accordé, il faut qu'il soit pas contraire aux bonnes mœurs, etc. Vous avez des exemples là-dessus? Et à partir du moment où, par exemple, un brevet a été accepté et qu'ensuite c'est utilisé d'une façon ensuite peut-être un peu détournée d'objet de départ, mais est-ce que non, ça tombe?
Est-ce que... Non, là, on ne peut plus rien faire. Une fois que c'est délivré, sur ce point de vue-là, sur les bonnes mœurs, on ne peut plus rien faire. Ce n'est plus un argument... pour dire ça fera annuler le brevet. Les seuls arguments qui peuvent faire annuler un brevet a posteriori, c'est la nouveauté, l'activité inventive et la suffisance de description et l'application industrielle. Par contre, sur les exemples de bonnes mœurs, honnêtement, il y en a peu qui sont refusés parce que les gens essayent d'y penser quand même avant. Généralement, c'est sur tout ce qui est armes. Armes chimiques, tout ce qui est nucléaire, armes quoi, tout ce qui peut avoir un caractère raciste, tout ce qui touche aussi au sexe, ça c'est prohibé. Mais ça, ils stoppent dès le départ, les demandes ne sont même pas publiées en fait. C'est, au tout début, c'est quelque chose qui est regardé très, très tôt.
On n'a rien à vous cacher. Moi, j'avais en tête, mais c'était un exemple historique, quoi. Le Zyklon B, il a dû être breveté, hein. Utilisé. Ah oui. Non, mais.
Les bonnes mœurs, c'est évolue.
Moi, j'aurais une question par rapport au fait de ne pas divulguer l'information sur ce qu'on veut breveter. Dans quelle mesure est-ce qu'on juge, comment est-ce qu'on fait comment l'autorité qui va délivrer le brevet peut savoir qu'on a divulgué? Est-ce qu'elle s'appuie, on n'a pas le droit de faire de publication scientifique sûrement, mais comment est-ce qu'elle peut prouver
En fait, donc, ce qu'elle regarde, c'est la date de publication. L'administration. Donc, si vous faites une publication scientifique, il va y avoir une date dans un journal. Donc, c'est cette date-là qui va compter. Si cette date est avant le dépôt de la demande, ça vous sera opposable. Si elle est après, ça ne vous sera pas opposable. Mais par exemple, pour une divulgation orale à une conférence, vous pouvez très bien faire la divulgation orale 2 semaines avant le dépôt du brevet. Et puis, il y aura un rapport écrit qui va être publié 3 ou 4 semaines après. Mais le rapport écrit va faire référence à la divulgation orale antérieure. Et qui sera daté également. Donc cette divulgation orale pourrait être considérée comme une antériorité. Mais en fait, en pratique, les offices n'utilisent que les brevets, demandes de brevets, publications scientifiques. Et maintenant, ils utilisent aussi Internet, mais avec tous les doutes que ça comporte sur la date de mise en ligne. Par contre, ces documents qui ne sont pas forcément publiés, qui ne sont pas forcément dans les offices, on peut s'en servir au moment d'une procédure judiciaire quand on veut faire annuler un brevet. Si on montre la date certaine du document et qu'il a été publié, on peut le ressortir au juge et lui dire « Attendez, regardez, c'est pas parce que l'office ne le connaissait pas. L'office, il n'a pas une obligation de trouver tous les documents qui existent. Il fait ce qu'il peut. » Mais... Et donc là, on peut ressortir le fameux document, par exemple un poster ou qui
a été... Et donc c'est support papier
Il faut qu'il y ait une... Non, il peut y avoir des témoignages. Ça peut être un témoignage de quelqu'un, mais c'est beaucoup moins fort, c'est beaucoup plus difficile. Ça existe, les témoignages, mais il faut faire des témoignages sous serment, etc. Donc, c'est très rare, mais ça existe. Mais le mieux, c'est le support papier. Effectivement, si vous divulguez de façon orale à quelqu'un votre invention, il y a quand même peu de chances pour qu'un tiers puisse prouver que vous l'avez divulgué avant.
Bon, une question qui est peut-être même en marge de votre présentation. Vous avez vanté les avantages, effectivement, de la protection. J'avais cru comprendre que certaines sociétés se mettaient ce qu'on appelle des chasseurs de brevets, comme il y avait des chasseurs de primes, pour aller, effectivement, vérifier, détourner, contourner. C'était fait même une spécialité de ce genre de pratique. Et que, parallèlement, certaines sociétés, face à ça, avaient comme stratégie de ne pas breveter, justement, parce qu'ils n'attiraient pas l'attention de ces fameux chasseurs. Voilà.
Ça dépend. En fait, c'est vrai, ça existe, mais ça dépend déjà de la façon dont vous avez protégé votre invention. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on essaye quand même de faire des brevets qui sont relativement larges et qui sont plus difficiles à contourner. Ensuite, c'est du cas par cas. Il y a certains produits, effectivement, il n'y a pas forcément un intérêt à déposer une demande de brevet. Si la personne ne peut pas, par exemple, vous avez un produit et la personne, à partir de la composition, ne peut pas retrouver ce qu'elle contient, peut-être que ça ne sert à rien de déposer une demande de brevet. Par contre, si vous mettez sur le marché une composition et que n'importe qui l'analyse et retrouve ce qu'il y a dedans, elle la refabrique, là, il y a un intérêt à déposer la demande de brevet. En fait, c'est vraiment du cas par cas. Et les sociétés aujourd'hui continuent quand même beaucoup à déposer des demandes de brevets. Aujourd'hui, en France, on est toujours en retard, mais on y vient de plus en plus. Et on est obligé, quoi. Hein, dans un contexte mondial, on est obligé. Mais c'est pas systématique. C'est vraiment, il faut étudier.
Puis après, on conclura.
De ma connaissance du monde industriel, il y a aussi des brevets qui sont des leurs. Donc la pratique industrielle, elle est vraiment tordue dans ce domaine-là. Hein. Vous pouvez déposer des dizaines de brevets pour bloquer une concurrence. Il n'y en a qu'un de bon dedans. Et y compris, alors, normalement, il faut avoir fait des expériences, etc., et avoir une vraie activité de laboratoire et technique derrière. Je connais des brevets qui ont été rédigés intégralement sans aucune expérience réalisée. Donc ça, c'est très très difficile à détecter, hein, évidemment, si c'est bien fait. Et à l'inverse, donc il y a des sociétés qui, bon, je peux citer par exemple L'Oréal, qui dépose des milliers de brevets, mais c'est de la défense littéralement, parce qu'il y en a tellement qu'on n'ose pas forcément s'attaquer à une société comme ça, parce que c'est un travail énorme rien que pour aller décrypter tout ce qui est tout ce qui a été décrit dans, et donc décrypter l'état de l'art antérieur dans ce cas-là. Donc c'est pour ça que les grosses sociétés ont des services vraiment dédiés à ce type d'activité.
C'est un moyen de dissuasion en fait hein, pour beaucoup.
Monsieur Christian. Bien, merci à Julie Sénatiempo. Il me reste à remercier les intervenants de ce matin, l'assistance et les questions fort pertinentes qui ont été posées. On va marquer une pause jusqu'à 14h où on reprendra le programme de cet après-midi. Donc à tout à l'heure.